Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans ce FC Stream Team du dimanche soir ou même de la nuit. L'équipe de France a remporté la Ligue des Nations à Milan. Encore une fois, une équipe de France renversante qui était menée 1-0 par l'Espagne, dont le fil était très ténu, on sentait que ça allait casser. Et puis, il s'est passé ce qui s'est un peu passé face à la Belgique. À l'orgueil, les Bleus ont renversé, et au talent, faut quand même le dire, ont renversé la situation. Et Martin, eh ben, voilà un titre de plus dans l'escarcelle des Bleus. Il manque le gros titre du mois de juillet, mais bon, il y a celui-là. C'est une consolante et ça dit un peu quelque chose de cette équipe de France qui a un peu repris le fil de son histoire.
Oui, et puis c'est toujours bien de finir avec une pluie de confettis, des joueurs qui posent avec le trophée. C'est des scènes alors qui ne deviennent pas habituelles parce que ça date d'il y a 3 ans, mais on a eu l'impression, en tout cas dans le folklore, de revivre un bon souvenir. Après, c'est sûr que la Ligue des Nations, c'est ni une Coupe du Monde ni un Euro, mais c'est vrai que ça réenclenche une dynamique. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important ce dimanche, au-delà du trophée, c'est cette dynamique. Mais Maxime, on va peut-être revenir sur le match d'ailleurs.
Ouais, et en plus, que n'aurait-on pas dit si l'équipe de France avait perdu ce soir ou bon jeudi ? Ce qui serait sorti, donc il ne faut pas faire la fine bouche, non. C'est un titre, l'équipe de France avait une mission, il y avait 4 équipes de très très haut niveau, l'équipe de France a gagné. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va revenir évidemment sur le match, on va discuter de différents aspects. Le premier sera de savoir qui est le MVP de ce match-là, qui est le meilleur joueur de ce match-là. On a 2 avis qui divergent, mais en gros c'est caviar ou foie gras, c'est soit Pogba, soit Benzema. Donc vous voyez, le choix est quand même...
On élargira peut-être sur le MVP du tournoi de l'équipe de France. Ça pourrait être drôle, ça aussi, Maxime. Je te prends à bout pour point parce qu'on n'en avait pas du tout parlé.
On
n'avait
pas parlé.
Mais Maxime, ça fait 5 ans qu'on fait cette émission et tu sais que dans les vieux couples, il faut surprendre.
Ça a bien marché. Là. Pour le coup, ça a très bien marché. On parlera aussi du deuxième but. On va décrypter un peu le deuxième but de Mbappé parce qu'il y a beaucoup de monde, et même nous les premiers sur le coup, qui n'avons pas forcément compris, qui nous sommes demandé ce qui s'est passé. On vous expliquera ce qui s'est passé et aussi on reviendra sur le côté est-ce que le but était valable, on va dire au moins dans l'esprit, parce que la lettre, a priori, c'était bien valable. Et enfin, on tirera évidemment les enseignements de cette Ligue des Nations, de la valeur de ce titre et forcément des principaux enseignements de cette victoire, 3 mois après la déconvenue de Bucarest face à la Suisse et à un peu moins de 14 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Une Coupe du Monde qui devrait bientôt se dessiner pour les Bleus, puisque normalement, une prochaine victoire face au Kazakhstan le mois prochain et ce sera dans l'avion pour le Qatar. Donc, on parlera tout ça. Mais on va commencer évidemment par le MVP de ce match. Qui est le meilleur joueur de ce match, Martin ? On en a choisi 2. Est-ce que c'est Pogba ? Est-ce que c'est Benzema ? À toi l'honneur, tu es à Milan.
Écoute, moi, ce que j'ai vu du terrain, et j'ai pris l'ascenseur avec des collègues de Marca, des Espagnols. Il faut toujours se fier aux yeux des étrangers. Et ils disaient dans l'ascenseur, est-ce un phénomène ? Alors, je ne parle pas espagnol, mais ils parlaient de Benzema, est-ce un phénomène ? Parce que pour moi, c'est lui qui sort les Bleus d'un mauvais pas, parce que c'est ce que j'ai écrit dans les notes, il reçoit un caillou et il en fait un diamant, Benzema, sur cette occasion-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut marquer ce but-là. Il ne pousse pas le ballon dans un but vide à 6 mètres. C'est-à-dire que c'est magique ce qu'il fait. Et c'est ce tour de magie qui remet complètement l'équipe de France, parce que si mine de rien, tu prends ton but face à l'Espagne, dans le jeu, il n'existait pas, les Bleus, et c'est sur un miracle absolu qu'ils s'en sortent. Il y a ça. Et ensuite, sa dernière demi-heure qui est absolument fantastique, c'est une demi-heure de ballon d'or parce que c'est lui qui remet les Bleus dans le sens de la marche. C'est lui qui initie les mouvements. Il est à la remise, il est à la conclusion, il est à la passe. Il donne 2 caviars, notamment un pour Mbappé en fin de match. Enfin, bref, c'est lui qui réveille cette équipe de France. Je lui ai d'ailleurs mis la meilleure note au sein des notes d'Eurosport. Alors, Pogba était juste un demi-point en dessous, mais pour moi, s'il faut en retenir qu'un, c'est Benzema.
8, tu lui as mis, les notes sont à retrouver sur eurosport.fr et plein d'autres choses évidemment. Je peux pas dire tellement le contraire de ce que tu viens de dire sur Benzema parce que c'est formidable. Son but, comme tu l'as dit, est exceptionnel. Il y a le coup de massue et juste derrière, il redonne l'espoir avec cette frappe incroyable. Il n'y a personne dans l'axe. Il dit je vais y aller, je vais la mettre. Et comme tu l'avais noté, j'ai vu sur tes tweets qu'il avait été plutôt à l'aise à l'échauffement dans l'exercice.
Ça, c'est incroyable. Alors, j'aimerais juste revenir là-dessus parce que c'est, j'ai jamais vu un entraînement comme ça. C'est-à-dire qu'il a tenté 11 fois, il a mis 9 buts petit filet avec Costil, mais qui ne pouvait rien faire, qui ne touchait même pas le ballon. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Et il met le même, exactement le même au match. C'est quand même rigolo.
Alors que Unai Simon l'a touché, mais bon, il était un peu trop juste. Moi, j'ai envie de mettre en lumière un certain Paul Pogba qui m'a ébloui, non pas par, c'est pas seulement parce qu'il a fait ballon au pied, mais par tout ce qu'il a fait, qui se voyait parfois moins, et par ses coups de gueule. Parce qu'à un moment, celui qui a mis des coups de pied au cul aux autres, c'est lui. Il y a cette scène terrible pour Benjamin Pavard. D'ailleurs, Benjamin Pavard en a pris plein la poire ce soir. Il se retrouve dans la surface du Golioris et là, vous voyez le terrain, quand vous regardez un peu le football, vous connaissez un peu le football, vous dites, c'est pas possible, il n'y a personne qui va venir l'aider. C'est-à-dire qu'il est avec le ballon, il est pressé. Heureusement que techniquement, il est bien, bien, bien au-dessus de la moyenne. Il finit par s'en sortir et là, il pousse une gueulante sur Pavard, qui a dû avoir les oreilles qui ont sifflé, qui doivent encore siffler maintenant. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le Pogba que j'aime comme ça, c'est-à-dire que à un moment, c'est devenu un chien enragé, c'est-à-dire qu'il y allait dans tous les sens, il mettait des coups, entre guillemets, il y allait, ouais, vraiment, franchement, il remontait le ballon, il jouait, et il donnait de la voix. Donc moi, c'est le leader que j'aime dans Pogba, c'est le leader vocal qu'il est devenu autour de la Coupe du Monde 2018, pendant cette Coupe du Monde, et on l'a déjà dit ici, il finira avec le brassard, c'est pas possible autrement, voilà, c'est le vrai leader vocal, vous êtes dans une situation compliquée, et ben il fait le boulot. Et ce que j'ai bien aimé aussi en première période, c'est que dans ce schéma-là, il s'est retrouvé quasiment à faire de l'individuel sur Gavi, et on le voyait concentré sur le terrain, à reculer, à faire attention. Pogba, c'est une star, c'est pas un joueur de devoir, même s'il est toujours hybride, et ben il a fait tout ça très bien, et c'est grâce à ça que l'équipe de France, pour moi, s'en sort aussi, parce qu'il a fait de son mieux, et il a poussé un peu la gueulante quand il fallait, et je trouve que s'il n'a pas eu le geste décisif qu'il a eu notamment à l'Euro sur ses longues passes, sur ses passes décisives sur Benzema, il était là, il a fait le job.
Il est quand même à l'origine du premier but. Hein. C'est lui, par sa sortie de balle, qui lance le premier but. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que sa première mi-temps sur Gavi, moi, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté. Et d'ailleurs, ils ont vite permuté avec Tchouaméni. Tchouaméni a pris Gavi. Voilà, moi, en première mi-temps, j'ai cette petite réserve-là. Mais après, c'est vrai que son match est monstrueux. Alors, pour nous réconcilier, Maxime, moi, le MVP du tournoi, pour moi, c'est Karim Benzema, parce que c'est celui qui a été le plus complet sur les deux matchs. Et c'est un des rares qui a maintenu un niveau très haut sur les deux matchs. En revanche, s'il faut un MVP pour cette saison de l'équipe de France, pour cette année 2021, je le donne sans aucune hésitation à Paul Pogba. Voilà. Donc, c'est quasiment les deux hommes forts de l'équipe de France depuis l'Euro, ces deux-là.
Ouais, et pour revenir sur le match, comme tu dis, c'était compliqué, mais ce que j'ai bien aimé, c'est son application. On le voyait, on le regardait. Il suivait Gavi, tout ça. Alors évidemment, c'est dans un système nouveau. Et surtout, il se retrouvait face à un autre problème que les Bleus avaient rarement, c'est-à-dire avoir une équipe en face qui monopolise le ballon et qui va tout faire pour les mettre à mal dans cette situation-là. Et je trouve qu'il s'est appliqué à faire ça. Et des fois, on se demande l'appétit de ces joueurs-là, de ce talent-là. Et bien, il a essayé de le faire. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et la révolte derrière qui était formidable. Sur le MVP du tournoi, c'est assez difficile. Mais je pense que je mettrais aussi Karim Benzema parce que c'est peut-être moins spectaculaire ce qu'il fait, notamment contre la Belgique, que Mbappé, c'est-à-dire sur la progression sur le ballon, sur toute l'étendue du match. Mais n'empêche qu'à chaque fois, c'est lui qui sonne la révolte.
Avec des buts exceptionnels.
Avec des buts exceptionnels. Le premier, c'est un but d'avant-centre avec une photo. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Il est au milieu de cinq Belges. Ça m'a fait penser à une fameuse photo. Si vous la retrouvez, allez taper sur Google Maradona Belgique en 86. Une photo où Maradona est tout seul entouré de Belges. Et bien là, c'était un peu la même chose. Et évidemment, cette frappe du gauche. Et puis ce soir, ce but dans un autre style venu de nulle part qui est exceptionnel. Et à chaque fois, il sonne la révolte. Il remet l'équipe de France dans le bon sens. Et je rajouterai un geste aussi important parce que c'est aussi grâce à lui que se pose la question de Mbappé, MVP, etc. Et bien le pénalty, voilà, il lui file le ballon contre la Belgique. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Et c'est un geste ultra important parce que là, il dit à Mbappé, écoute gamin, J'ai confiance en toi. Ton pénalty, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est oublié contre la Suisse. Vas-y, va le tirer. Et si tu le mets, c'est 100%, c'est gagnant. Il l'a fait. Donc oui, Benzema sort hyper grandi. Et enfin, il faudra quand même un jour, on écrira peut-être un livre là-dessus, ce que le 1er mai, Benzema est encore un mirage. C'est même pas une possibilité en équipe de France. Voilà. Et ce qui se trouve qu'à l'Euro, il fait le job, ça se passe pas bien, mais il met ses 4 buts. Et pendant ce tournoi-là, bah, il fait aussi mieux que le job. Donc c'est quand même une sacrée pirouette, un sacré clin d'œil de l'histoire. Et c'est toujours un trio qui se construit. Parce que, alors, ce soir, ce n'était pas un match pour ce trio-là, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas beaucoup toucher le ballon. Mais n'empêche qu'il y a tellement encore à faire. Si un jour ça marche à plein régime dans les plus beaux rêves de Deschamps, il y aura un trio incroyable. Mais encore une fois, chapeau Benzema pour le coup.
Et si on m'avait dit que cette Ligue des Nations se terminerait par un hommage vibrant, vraiment vibrant de Didier Deschamps envers Karim Benzema en avril dernier, je pense que j'étais prêt à hypothéquer ma maison hein, et ma famille. Et bah, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'aujourd'hui, je serais sans domicile fixe, tout simplement.
Tu serais à Milan, tu te mettrais sous les colonnes
ouais,
du stade.
Sous le Siro, là, il y a une belle hauteur sous plafond. Hein. Là, il y a une belle hauteur sous plafond. Je ne sais pas combien de mètres carrés, mais par contre, en chauffage, ça doit coûter cher, d'autant que là, on se gèle les meules. Voilà, on passe au deuxième sujet, Maxime. Ouais. Et peut-être peut-être quand même sur le tournant de cette rencontre. On va revenir évidemment sur le but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est hors-jeu sur la passe sur décisive de Théo Hernandez. Mais l'arbitre de la rencontre estime que le tac d'Eric Garcia finalement remet en jeu Kylian Mbappé parce qu'il touche le ballon. Il estime que c'est un acte délibéré, donc ça remet Kylian Mbappé en jeu selon la loi 11 du jeu. C'est comme ça qu'a été interprétée cette action-là. C'est pour ça que le VAR a validé ce but. C'est pour ça aussi que l'équipe de France remporte ce trophée, cette Ligue des Nations. C'est ce qui a fait basculer à la rencontre. Et Maxime, toi comme moi, là, on est d'accord, c'est dur pour l'Espagne.
Oui, c'est dur pour l'Espagne. Alors tant mieux pour l'équipe de France. On ne boude pas notre plaisir d'avoir ce but de Mbappé. D'ailleurs, il faudra parler de la finition de Mbappé. C'est plutôt pas mal aussi parce qu'il est à l'arrêt, il sort ce passement de jambe et va la mettre du pied gauche alors qu'il a l'arrêt total face au gardien. Donc ça, plutôt pas mal. Mais après, ouais, alors c'est toujours pareil, il y a l'esprit et la lettre. Ça me fait penser à la règle pour les mains maintenant. On siffle une main, c'est automatique. On automatise tout sans chercher à comprendre parce qu'on se disait que finalement, si on automatise, ce sera plus simple. Or, on voit que ce n'est pas trop dans l'esprit du jeu. Parce que finalement, vous prenez l'action. Au moment où le ballon part, Mbappé est hors jeu. Et au moment où Garcia le remet en jeu, c'est à l'arrivée du ballon. Donc si l'arbitre sur le côté lève le drapeau tout de suite, parce que normalement ça se juge au moment où le ballon quitte le pied du passeur, eh ben, il y a hors-jeu, on ne se pose pas la question. Si maintenant on commence à dicter cette loi-là au moment où le ballon arrive et qu'il faut attendre 2 heures après, ce n'est pas trop juste. Encore une fois, tant mieux pour l'équipe de France. Voilà. Mais dans l'esprit, je trouve que c'est moyen. Surtout que Garcia, qu'est-ce qu'il fait? Il tente d'intercepter le ballon. Alors évidemment, ce qui est délibéré, c'est le tacle. Parce que c'est un réflexe de...
Oui, mais
il remet pas le ballon sur Mbappé. Ah, voilà, donc c'est aberrant.
C'est pas une passe en retrait. Si Eric Garcia fait une passe en retrait à son gardien, pour le coup vraiment intentionnel, et qu'il se fait piéger par Mbappé, là, exactement. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Là, c'est un tacle, c'est-à-dire qu'il se jette quelque part, c'est un peu à la Desperado, pour essayer d'intercepter ou de freiner la course du ballon. Moi, je trouve ça très dur d'estimer qu'ils remettent délibérément Mbappé en jeu. Pour moi, c'est là que le bas blesse. Et c'est là où cette règle... D'ailleurs, tous les Espagnols en réaction d'après-match sont revenus là-dessus, que ce soit Azpilicueta, Eric Garcia ou Sergio Busquets, en disant que c'était effectivement très, très dur.
Mais c'est une évidence. Imagine la même action de l'autre côté.
Évidemment, évidemment. Et en plus, il y a une autre action dont je voulais parler. C'est cette main de Jules Koundé où là aussi, si on applique bêtement le règlement, comme tu le disais tout à l'heure, bah, finalement, la main, elle est décollée du corps, il y a pénalty pour l'Espagne. Donc, pourquoi ce qui s'applique à la France ne s'applique pas à l'Espagne? Et d'ailleurs, cette main de Koundé, je ne sais pas si vous vous rappelez le troisième match des Bleus à l'Euro, c'est la même, c'est le même joueur. Et là, c'est sifflé contre l'équipe de France. Donc, à un moment donné, moi, je comprends que les Espagnols se sentent complètement floués, se sentent arnaquer, le mot est peut-être un peu grand, mais c'est vrai que je ne comprends pas comment l'équipe de France a pu gagner ce match sur ces deux décisions-là, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a finalement deux.
Non mais ce qui, de toute façon, c'est à l'essence même du VAR et de l'arbitrage vidéo, c'est qu'on a voulu régler des problèmes qui n'existaient pas forcément et de se dire que bah, finalement, comme c'est la vidéo qui va décider, ce sera réglé. Le problème, c'est qu'il y a toujours un homme qui décide derrière et qui prend des décisions différentes. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on n'arrivera jamais à harmoniser. Et tant qu'à avoir des erreurs, j'aimais autant quand c'était l'arbitre sur le terrain qui la faisait, parce que c'est d'autant moins acceptable aujourd'hui d'avoir des erreurs après revisionnage. Et on sait très bien que revisionner des choses au ralenti, à contre-temps, à des images arrêtées, c'est pas la même chose que la lecture du terrain quand c'est à pleine vitesse. Et encore une fois, si l'arbitre sur le côté voit le hors-jeu tout de suite, il lève le drapeau, on ne serait pas revenu sur l'action à dire « Ah oui, mais il la touche derrière » parce que l'arbitre sur le côté, entre guillemets, aurait fait son boulot, aurait vu l'action et aurait vu que Garcia se serait devenu un détail. Il aurait juste dévié le ballon, on aurait parti sur un coup franc. Voilà, tant mieux pour les Bleus, mais c'est vrai que c'est quand même… je sais pas où
c'est pas dans l'esprit.
C'est pas dans l'esprit, ouais, c'est pas dans l'esprit. Et je sais pas où va l'arbitrage, mais en tout cas, il va tout droit.
On est bien d'accord, Maxime. On va terminer cette émission en parlant… finalement de ce qu'on en tire de cette Ligue des Nations. Ce n'est que la Ligue des Nations, hein, on le répète, c'est un trophée, on le répète aussi. Quelques mois après l'Euro, ça fait combien ? Ça fait 3 mois après l'Euro, 4 mois après l'Euro,
3 mois
après l'Euro, à 14 mois de la Coupe du Monde au Qatar. C'était un point de rendez-vous parce que y avait un trophée, mais surtout un point de rendez-vous parce que tu rencontrais la Belgique, puis l'Espagne ou l'Italie, soit ce qui se fait de mieux, j'allais dire en Europe, mais quasiment dans le monde quand même. Hein. Belgique, on rappelle, numéro 1 au classement FIFA. Italie, champion d'Europe. Et Espagne, demi-finaliste de l'Euro. Donc, c'était un vrai test pour cette équipe de France. Ça devait penser un peu les plaies de l'Euro. Ça devait regonfler les ambitions à 14 mois, on l'a dit, du désert qatari. Maxime, la mission est-elle accomplie ? Forcément.
Oui, elle est accomplie. C'est une équipe quand même, l'équipe de Didier Deschamps, et même lui, qui vit par et pour le résultat. Pour ceux qui ont aimé ce qu'a fait l'Espagne et qui dit oui, ça va grandir, bah oui, très bien. Mais vous attendez jamais à ce que l'équipe de France développe ce jeu-là. Voilà. Ce n'est pas dans son ADN. L'ADN de l'équipe de France, c'est la gagne. Et il se trouve que Didier Deschamps avait raté son coup dans les grandes largeurs à l'Euro. Il en a encore parlé des fameuses 10 dernières minutes. J'ai l'impression que ça va devenir le leitmotiv de l'année. Mais n'empêche que on pourrait lui rétorquer que si les 10 dernières minutes de la Suisse ont été surréalistes, les 10 minutes au milieu de la Belgique sont surréalistes et les 2-3 minutes, barre, but espagnol, frappe de Benzema, le sont aussi. Donc finalement, c'est le football. Et des fois, ça va dans un sens ou dans l'autre. Et il se trouve que quand même, ça va très souvent dans le sens de l'équipe de France. Didier Deschamps a-t-il trouvé un système avec ce 3-4-3 ? Je dirais oui, mais je pense qu'il va repartir avec ça contre le Kazakhstan. Mais n'empêche qu'il y a deux choses pour moi. C'est que les pistons, c'est toujours pas réglé. C'est toujours un problème. D'accord. Et surtout à droite, où Pavard, on le disait déjà pendant la Coupe du Monde, c'était le point faible. Il est perdu. Donc, il faudra trouver autre chose. Et autre chose aussi avec la défense à 3. Avec un Varane, il est blessé, mais il était quand même pas formidable avant. Et surtout qu'on a beaucoup parlé du réservoir de défenseurs centraux en équipe de France. Voilà. Je pense que le réservoir de défenseurs centraux, il n'est pas aussi profond que ce qu'on pense. Parce que Upamecano, encore une fois, c'est compliqué. L'anglais, ça n'existe plus en ce moment. Donc, on ne sait pas très bien où ça va. Kimpembe était moins bien ces derniers temps. On a essayé Lucas, ça n'a pas forcément bien marché. Ça reste
quand même... Koundé. Koundé, c'est la très bonne nouvelle.
Koundé, c'est la très bonne nouvelle. Voilà. Il a joué à son poste et on a vu qu'il avait le niveau international. Donc peut-être que Koundé, c'est une solution. Mais il y a quand même encore beaucoup de points d'interrogation dans cette défense-là qu'il faudra lever. Mais si je devais terminer sur un enseignement qui est majeur, parce que vous avez beau mettre le système que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, du 4-3-3, du 3-4-3, ce que vous voulez, 4-2-3-1. C'est les mecs sur le terrain et là, on a vu que cette équipe a encore faim et qu'elle a un orgueil qui est encore, je pense, démesuré. Et elle fonctionne à ça, tout simplement. C'est toujours un poncif que j'aime pas tellement, le refus de la défaite, parce que je trouve que c'est un peu une connerie. Personne n'aime ça. Mais eux, quand même, ils ont quelque chose de particulier avec ça et on l'a vu. Et de voir comment le match a basculé à l'heure de jeu après le but de Benzema, c'est presque caricatural, c'est-à-dire que le match a complètement vrillé. L'Espagne a été plutôt paumée et l'équipe de France a mis ce qu'elle avait de mieux sur le terrain, c'est-à-dire ses tripes et son orgueil. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je pense que Didier Deschamps, simplement, grâce à ça, il a gagné presque 14 mois de tranquillité, parce que quoi qu'il arrive maintenant, Kazakhstan, a priori, ça se qualifie. Il y aura des matchs amicaux derrière. Donc l'équipe de France est peinarde jusqu'au mondial et surtout Didier Deschamps.
Moi, pour moi, ce que ça nous a rappelé, c'est ce que tu dis, hein, c'est que c'est des champions. Tout simplement, c'est des champions. Et quand tu vois les grands joueurs de cette Ligue des Nations, Mbappé, Benzema, Pogba, Lloris, voilà, c'est des champions. Griezmann un peu en retrait, mais ce sont des vrais champions. Il n'y a pas d'autre mot. On parle souvent de cette équipe comme voilà, on a les meilleurs joueurs du monde, mais pas le meilleur collectif, etc. On a les meilleurs joueurs du monde et ils le prouvent, ils l'ont montré pendant une semaine en Italie. Ils ont montré qu'ils étaient l'équipe de France, comme dit Paul Pogba. Et pour moi, c'est ça l'enseignement majeur, principal qu'il faut tirer de ces quelques jours. Parce que l'Euro nous avait fait douter. Et nous deux, les premiers, Maxime, on s'était dit, voilà, cette équipe, où est-ce qu'elle va? Ils sont perdus. Il y a pas de confiance. Il y a peut-être aussi, entre les mecs, il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas, une alchimie qui ne prend pas, une mayonnaise qui ne monte pas. Et eux nous répétaient, non mais attendez, nous on a la confiance, il n'y a pas de souci, on est des grands joueurs, ça va finir par marcher, ça va finir par arriver. C'est ce que répétait tout le temps Benzema quand on l'interrogeait sur Griezmann et Mbappé, pourquoi ça ne marche pas. Il répétait ça comme un mantra. Et il nous disait, non mais la confiance, on n'a pas perdu la confiance les gars, on sait ce qu'on... Et là, que ce soit ici à San Siro ou à Turin, c'est ce qu'ils ont prouvé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est imparfait. Et c'est vraiment imparfait. Parce qu'ils ont vraiment souffert. Belgique, ils ont vraiment souffert. Espagne, ils ont vraiment souffert. Et tous, on s'est posé la question dans ces matchs-là, comment ils vont s'en sortir? Tous, on s'est posé cette question, mais pas eux. Parce qu'eux, ils sont animés de quelque chose en plus. Alors, ça se passe soit dans le vestiaire, ça se passe soit sur la gueulante de Pogba à Pavard, ça se passe sur la frappe de Martien de Benzema, ça se passe sur les passements de jambes d'Mbappé qui offrent des ballons incroyables à Griezmann. Mais il y a ces moments de magie que eux seuls sont capables d'accomplir, mais aussi parce qu'ils ont cette conviction ancrée en eux. Et donc, ils nous ont juste prouvé qu'on avait tort de douter. Voilà, ils l'ont prouvé. Et pour moi, c'est, alors au-delà du trophée, etc., ça se nourrit de victoire, la vitamine du trophée, tout ce que nous serait une Didier Deschamps. Mais moi, pour moi, c'est surtout ça qu'il faut tenir.
Mais de toute façon, au fond, ce sens du combat et du sacrifice, ils ne l'avaient pas vraiment perdu. Parce qu'on va revenir sur l'Euro. Contre l'Allemagne, ils l'ont parfaitement. Contre la Hongrie et le Portugal, je pense qu'ils sont juste pas bons, mauvais même.
Cramés.
Et contre la Suisse, finalement, ce moment où ils se retrouvent à 3-1, qui vont lâcher les pédales. Et c'est pas tant de dire que les gars n'ont pas combattu, c'est presque qu'ils sont dans une situation confortable et c'est là où ils perdent les pédales. Donc ça, finalement, ils ne l'avaient pas perdu et cette Ligue des Nations a permis de retrouver ça. Alors, est-ce qu'on peut se dire que les 10 minutes contre la Suisse, si elles n'avaient pas existé, l'équipe de France aurait-elle gagné l'Euro? Je ne suis pas certain parce que les événements étaient trop contraires et il y avait des équipes qui avaient un meilleur, comme l'Italie tout simplement, qui étaient dans un meilleur momentum et qui avaient le vent dans le dos. Donc je pense que ça n'aurait rien changé. Mais encore une fois, cette Ligue des Nations aura servi à voir ça, que l'équipe de France, déjà contre les grosses équipes, ne perd toujours pas. Et une stat intéressante, sur les 8 derniers matchs, ils sont menés 7 fois, les Français. Ils ne perdent pas.
Mais alors moi, ce qui m'agace avec eux, par contre, et on l'a vu face à la Suisse en 3-1, à 3-1, non, c'est que c'est une équipe qui n'aime pas le confort.
Oui.
Et c'est un peu la face obscure de cette équipe-là. Oui. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'être bousculée, c'est vrai. Et quand elle est dans quelque chose, et c'est pour ça qu'elle a eu du mal, par exemple, à la rentrée, face à des équipes qui ne valaient rien d'un point de vue international, c'est qu'il faut qu'il y ait l'odeur des grands matchs ou de la compète, voilà, et qu'il faut aussi qu'il soit ballotté. Et la Suisse, pour ça, c'est le meilleur exemple. Tu es à 3-1, tu te relâches, tu as Pogba qui vient de mettre sa mine intersidérale dans la lucarne, et quelque part, ils se disent c'est bon, on est en quart. Et c'est une équipe qui n'aime pas le confort. Et moi, c'est ce que je reprocherai encore à Didier Deschamps. Didier Deschamps, il doit trouver cette solution-là, cette clé-là, parce que Coupe du Monde, est-ce que ça passera tout le temps comme ça, par une espèce de maestria comme ça? Peut-être, ouais. Mais peut-être pas.
Je pense que ça ne sera jamais une équipe de confort, voilà. C'est vraiment son ADN, et encore une fois, ce soir c'est intéressant, c'est que alors, l'Espagne c'est parfois de la possession stérile, ça ne tire pas au but, mais quand même, on se dit que si le fil casse, pendant longtemps, ça va sûrement plus être de l'équipe de France, côté équipe de France. Et puis, finalement, c'est là où ça arrive. Alors, évidemment, il y a cette frappe sur la barre. Mais n'empêche que quand l'Espagne ouvre le score, on ne se dit pas que c'est immérité. Voilà. Simplement parce qu'ils ont moins le ballon et qu'ils n'en font pas grand-chose. C'est quand même le néant offensif pendant très longtemps, ce match-là. Et puis, ce moment où ils sont voilà, dans le dur, qu'ils arrivent à se remettre. Et ça, c'est quand même une qualité. Et à défaut d'imaginer qu'un jour, cette équipe change sous Didier Deschamps, devienne une équipe, comme tu dis, de confort et qui sache imposer son jeu d'une certaine manière, bah, faut au moins qu'elle ne perde pas ça. Et je pense que tant qu'elle ne perdra pas ça, elle pourra y croire. Ça ne veut pas dire qu'elle y arrivera, parce qu'on l'a vu à l'Euro, bah, ça ne s'est pas bien terminé. Mais n'empêche que tant qu'elle a ça, on peut se dire que les gars ont quelque chose. Et souviens-toi, l'Euro, la fin de la Suisse, l'énervement de Pogba, c'est aussi ça. Mais c'est le côté obscur, là, finalement. C'est que les gars s'énervent d'une certaine manière, mais ils ont toujours cette rage de dire on a faim, on veut y aller. Ce sont des joueurs, il faut le rappeler, c'est quand même une équipe qui est assez jeune aussi, globalement. À part évidemment Benzema, mais lui, il a cette faim d'une autre manière, puisque lui, il a loupé 5 ans en équipe de France. Donc voilà. Donc je pense que tant qu'ils auront ça, ça ira, mais il faudra que maintenir ça. Et je pense que bah, y a la Coupe du Monde, c'est dans 14 mois. Il faut espérer que ça maintiendra jusque-là.
Et puis, c'est quand même une équipe qui n'a plus perdu depuis 25 matchs, je crois, la Finlande. Je crois que c'est une série. Je crois que c'est la plus grosse série de l'équipe de France depuis 80, 96.
Bah, ça va être la série Jacquet, les 30 matchs.
Voilà, exactement. Donc, bon, voilà. Il y a effectivement eu un euro. On peut considérer la Suisse quand même comme un gros gadin, comme une défaite. Et ça reste des tirs au but. C'est quand même une équipe qui perd relativement peu, voire pas du tout. Donc, un an du Qatar, il y a quand même des petites fondations qui sont quand même costaudes. Voilà. Maxime, je vais revenir du coup.
Bah oui.
J'espère que tu es content. Tu m'as manqué, hein. Tu m'as manqué. Voilà.
Bah pareil. Ouais.
Est-ce que tu veux que je te ramène, je sais pas, des pâtes
Ah bah si, un maillot de Marco Van Basten.
Alors le maillot, je l'ai ramené, mais il n'est pas pour toi.
Ah.
Je suis désolé. Ouais, je suis désolé. J'ai pas trouvé un maillot qui te sublimerait. Tu vois, il y avait que des petits maillots un peu ah ouais. dégueulasses. Et
moi,
toi, je.
Ouais, moi, toi, c'est je seulement que... le Marco Van Basten avec le sponsor Mediolanum. Là. Sinon,
je ne l'ai pas trouvé celui-ci.
Non, c'est pas la peine.
Il y avait Ibrahimovic, mais je ne suis pas sûr que ça t'aurait fait très plaisir.
Non. Bah, voilà. Ibrahimovic, c'est le type, le quart de Van Basten, c'est ça à peu près.
Je te laisse. Voilà. Je te laisse, seul juge de tes propos. Ouais, je ne rentrerai pas dans ce débat.
Je les assumerai.
Exactement. Et ben, hâte de se retrouver, Maxime.
Bon voyage.
Merci. Merci à Adrien aussi pour la réalisation exceptionnelle. De ce nouveau numéro de la Stream Team. La Stream Team, du coup, n'est plus en quotidienne, mais revient en hebdo à partir de vendredi prochain.
C'est ça, exactement.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il vous reste à... Tu veux le mot de la fin, Maxime, ou pas? Tu veux conclure?
Non, vas-y, je te le laisse.
Bah, ciao tutti. Et puis, c'est tout ce que je sais dire en italien.
Bah, c'est déjà pas mal.
Donc, voilà.
Comment c'est à sentir la fatigue?
Ah ouais, bien la fatiga là, ouais, le gros dodo là bientôt, parce que là, je sais pas si vous voyez mes cernasses là, mais heureusement que c'est un podcast. Et bon, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci Maxime, merci Adrien et ciao ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.